On parlera donc de votre livre, Tristan Edern-Vaquet, qui s'intitule sobrement Du champagne, un cadavre et des putes, paru aux éditions du Poignon Productions, c'est-à-dire votre propre maison d'édition, car vous faites tout vous-même.
Absolument.
Et ça, c'est beau.
Et si tu veux que je te dise tout, c'est même une des grandes fiertés que j'ai eues de faire ce bouquin de A à Z, graphisme compris, tout compris. T'as le sentiment du petit producteur do it yourself. Et ça peut paraître ridicule, mais c'était très exaltant et très valorisant de se sentir responsable de son bébé.
Sachant que ça n'est pas tout à fait la première fois, puisque peu de temps après les attentats de Charlie Hebdo, vous publiez un pamphlet qui s'intitulait « Je ne suis pas Charlie, je suis Vaquet », là aussi entièrement fait
à la main.
Oui,
oui, mais c'est des précédents, mais c'est la première fois que je faisais le graphisme.
Eh oui.
Le graphisme de ce bouquin est entièrement fait par moi de A à Z, et je me suis découvert un nouveau boulot et j'étais très fier de moi. Il faut mieux que je sois fier de moi, puisque les autres ne le sont pas pour
oui,
moi.
Oui, je crois savoir d'ailleurs que le graphisme ne paye pas plus que écrivain en France, hein, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs... si vous pensez, vous en connaissez certains?
Oui, oui.
Alors, si on revient un petit
C'est-à-dire
peu même...
que moins qu'écrivain, je ne connais pas.
Qui
paye moins qu'écrivain,
ah, d'accord.
Je connais pas.
Je croyais que vous parliez de l'utilité sociale, c'est pour ça. Je
mais aussi,
peu,
mais
bien
ça,
sûr,
mais...
cela va de soi. Alors oui, d'ailleurs, pour finir là-dessus, avant de faire juste nos petits testicules d'or, parce qu'il faut bien les décerner cette semaine, bien sûr, vous avez quand même eu un petit passage dans l'édition dite traditionnelle, puisque vous avez publié un livre excellent s'il en est, Je gagne toujours à la fin, aux éditions du Diable Vauvert.
Oui, notre vie, il y a longtemps.
Suite à quoi vous avez eu quelques soucis avec votre éditeur, vous avez donc écrit un pamphlet, mon éditeur est un enculé, en l'occurrence mon éditrice est un enculé, enfin une enculée. Tout ça, c'est une période assez réjouissante quand même, sachant que le livre est très chouette et le livre n'est plus disponible. Enfin, il est disponible, je crois, sur votre site en téléchargement libre, plus ou moins ou...
Non, moi, à ma connaissance, il est toujours en vente dans les bonnes librairies qui voudront bien le commander.
Mais en grand format, il n'est jamais paru en poche.
Non, il n'est jamais paru en poche. Il a pas eu la carrière que d'aucuns, qui ne sont pas très loin de moi en ce moment, auraient pu l'espérer, alors que des tas de bouses... ont une autre carrière. Bon, c'est sans doute que j'avais pas le talent de la dernière trilogie de Dépente, ou pas le talent des jeunes filles qui actuellement font des romans d'anticipation, puisqu'il paraît que c'est le nouveau credo. J'ai dû comprendre, entendre ça sur un média à la con. Bon.
Sans doute, ouais.
Voilà, donc ce bouquin est resté dans la confidentialité. Est-ce que ça a à voir avec les procès nombreux qu'on lui prédisait, le fait que une réédition en poche et une réédition, donc la période de 3 mois qui a été poussée à 1 an, grâce à nos socialistes très progressistes, en ça comme en tout, de la prescription sur la liberté d'expression, fait que le bouquin pourrait être réattaqué par ceux qui ne se sont pas réveillés à temps sur la première publication. La prescription servait à ça pour la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'on met une prescription très courte, ce qui fait que les associations bien-pensantes n'ont pas le temps de faire des procès.
Mmh.
Ça a été allongé, mais dans le cas d'une réédition, ils te guettent au tournant, et peut-être qu'on a fait comprendre à des gens, j'en sais rien, que ça serait une très mauvaise idée de le republier, parce qu'à ce moment-là, les procès se réveilleraient, ou pas d'ailleurs, ou peut-être juste, ce bouquin intéresse personne, et puis... Bon, en tout cas, il n'a effectivement pas eu la carrière qu'il mériterait peut-être ou pas.
Pourtant, c'est étonnant parce qu'on en avait dit beaucoup de bien ici à la Salle 100, et nous, on a tendance à faire un peu les carrières des écrivains. C'est
oui,
nous
oui,
qui avons
oui,
lancé
oui,
des gens comme Alain Damasio, par exemple.
Je ne comprends pas, et voilà, bon. Mais ouais, peut-être, en fait, tu as juste des goûts de chiottes.
C'est peut-être ça.
Je ne vois que ça comme...
Finalement, une explication enfin crédible, après presque 17 années d'existence.
Comme explication. Non, mais ouais. si on veut être sérieux, là, on est dans une ambiance badine, et puis le but est sans doute de le rester. Mais je vais plomber l'ambiance avec des propos dépressifs.
Ouais.
Mais à un moment, si tu veux, c'est pas possible les deux. C'est-à-dire, soit j'ai le talent que tu me prêtes dans le pitch que tu fais, par exemple, il y a quelques temps sur cette radio.
Approchez-vous de votre micro, ce sera
mieux. Soit j'ai ce talent-là et effectivement j'ai une carrière qui est incroyablement nullissime en comparaison de ce talent-là qui est remarquable. Je ne demande pas d'avoir la place de Houellebecq, hein, mais être une place à ce point-là de l'underground, du fin fond des chiottes de l'underground, c'est pas possible.
Ni le physique d'ailleurs, hein, c'est mieux éviter. Quoi. C'est plus le physique de Houellebecq, mais
il y a un joli passage dans mon roman d'ailleurs sur Houellebecq où il y a toute une... sur son physique justement. Je digresse pas.
Mais,
donc soit j'ai la carrière que je mérite, et très sincèrement, je t'ai droit dans les yeux, pourquoi tu invites un artiste à ce point mineur qui ne vaut aussi peu que la carrière qu'il mérite? Donc à un moment, il y a quelque chose de central dans la façon dont sont organisés nos métiers que j'arrive toujours pas à comprendre. Et je pense qu'une des clés, il ne s'agit pas de me comparer du tout, mais il y a une des choses qu'il faut connaître si on veut comprendre nos métiers, c'est la fameuse la fameuse histoire de la conjuration des imbéciles. Je dis d'autant plus tranquillement que c'est que moi, c'est un bouquin que j'aime pas beaucoup. Mais voilà, un jeune...
Précise bouquin donc, de John Kennedy Toole, voilà. Tout à fait.
Le monsieur, il écrit son bouquin, il essaie de se faire publier, tout le monde lui dit c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Bon, il se suicide parce qu'il en a. C'est très douloureux quand tout le monde te dit c'est nul, ce au quoi tu crois. Et puis sa maman arrive derrière, va faire le tour des éditeurs. Ah, oh, il est suicidé, ah, c'est une belle histoire, on va le publier. Et là-dessus, c'est un énorme succès de librairie. Petit 1 et petit 2, c'est probablement le roman le plus consensuel sur le fait que tout le monde dise « Ah, c'est génial, merveilleux !» Alors moi, je voudrais juste avoir quelqu'un les yeux dans les yeux, quelqu'un du système, qui m'explique comment on peut être à ce point-là schizophrène ou malhonnête. C'est-à-dire, soit ce bouquin est une daube impubliable de merde, soit ce bouquin est génial et est un blockbuster. Ça peut pas être les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un problème de compétence, ou un problème d'organisation du système, ou un problème de lâcheté, ou un problème de tout ça. Mais, donc voilà... Soit moi, mon bouquin, c'est une bouse infâme, et puis t'es une fois encore un abruti de m'inviter. Soit je n'arrive toujours pas à comprendre, malgré le sourire que j'essaye d'avoir, la place que m'offre, la place qui n'est même pas un strapontin, qui n'est même pas un bout de strapontin au fond des chiottes, que m'offre mon métier depuis, mon métier si je peux appeler ça comme ça, depuis 25 ans.
Vous avez envisagé le suicide peut-être pour booster les ventes?
Ah mais je ne vois que plus ça, le problème c'est que ma maman est pas très douée, donc elle les ravira pas non plus, donc je compte sur toi, je vais te faire mon exécuteur testamentaire, et d'ailleurs je vais me suicider tout de suite en me pendant ici, parce que la hauteur de plafond permet avec le fil du micro qui est de casser, qui est pas solide, et donc non, je ne leur ferai pas ce plaisir, monsieur, je ne me suiciderai pas.
Très bien, faites comme ces braves gens qui effectivement ne le font pas et que nous aimons quand même. Une dernière chose d'ailleurs à ce sujet, vous exagérez parce que là par exemple demain vous allez passer chez Tadei dans un média soviétique, je veux dire, c'est quand même formidable, ça c'est un vrai d'ailleurs c'est pas la première fois, vous êtes passé sur le service public, je me souviens très bien, vous avez même il faut le signaler, vous avez même rappé sur le service public.
Et j'ai même insulté, parce que si tu veux tout, c'est une de mes plus grandes fiertés, j'avais une chanson assez radicale dont j'ai présenté un extrait, et il y avait un ministre sur le plateau, et à ce ministre, droit dans la face de façon absolument intelligible, je lui ai dit votez bande de chiens, j'étais comme ça à 20 cm de sa gueule, c'est la télé donc on nous voit, votez bande de chiens pour que notre existence à tous ressemble désespérément à la vôtre, immobile et là en laisse en attendant la mort, droit dans sa face au ministre, et c'était assez jouissif. Et j'avais fait ça, alors pour le coup j'avais fait ça aussi 10 ans avant, dans la gueule d'Éric Raoult, et je jouais du Pessoa, enfin je jouais pas, j'étais dans une protestation, un truc vraiment ultra violent, qui utilisait l'ultime thème de Pessoa. Et donc j'insultais tout le monde, et je vais droit dans la face d'Éric Raoult, et je lui dis, toi le réactionnaire sur le toit, toi tu dégages. Droit à ça de sens, ce truc. Il a été se plaindre derrière en disant c'est qui ces gauchistes. C'était bien, ça m'a fait beaucoup plaisir.
C'est Éric Raoult, c'est normal.
C'était un niveau de connerie, je dois dire que c'était un niveau. Et donc ce type-là, pour avoir les voix des Portugais dans sa mairie, a fait une expo Pessoa sans comprendre le caractère subversif de Pessoa. C'était assez. C'est pour ça que j'ai joué juste du Pessoa. Le réactionnaire sûr de vous dégager, c'est dans l'ultimatum, je ne vais pas inventer un mot.
C'est sans doute parce que Pessoa, c'est de la poésie, donc c'est joli.
Oui, oui, voilà, c'est un prix Nobel. On revient à ce que je te disais il y a 20 secondes, il y a 3 minutes. C'est un prix Nobel, donc c'est respectable. Si demain, tu me mets dans des médias et tout ça, et que tu dis « Ah, bah, c'est bien, Vaquette », les gens vont dire « C'est bien, la réalité ». La réalité, c'est que les gens n'ont pas d'idée par eux-mêmes. Je dis droit dans les yeux à tout le monde, c'est la réalité. Donc les gens te disent la conjuration des imbéciles, ils auraient tous eu sur leur boulot. Ah les salauds d'éditeurs, ils l'ont pas publié. Mais vous l'auriez eu sur votre boulot, sur votre bureau, vous l'auriez pas publié non plus. Et vous auriez trouvé ça nul. Et puis on vous a dit, ah c'est génial, parce que le copain qui vous l'a filé vous a dit, ah c'est génial, et vous trouvez ça bien. Donc Patrick aujourd'hui vous dit que mon travail est merveilleux, donc vous allez tous l'acheter. Je suis venu avec 2 cartons de livres, vous ne repartirez pas, je vous conviens tous, sans l'avoir acheté un par un. Bande d'enculés.
Je rappelle que ça c'est être vendeur, vraiment, j'en prends bonne note, ça me paraît très bien. Alors, avant peut-être, de toute façon, vu que tout se déroule pas du tout comme prévu, ça n'est pas très grave, continuons.
Tu veux que je te fasse pipi dessus,
non,
peut-être?
Non, ça va, non, je vais pas encore passer dans ce stade de sensualité. Cela étant, nous avons un gâteau qui a été fait gentiment par Yegor, donc on pourrait peut-être le manger avant tout en bon français. Parlons un petit peu...
Non, c'est même pas un gâteau au porc.
Non, c'est un gâteau sucré, alors je ne sais pas. Moi,
mais voilà, donc pas c'est sucré. Pas en bon français.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une remarque qui.
Attention,
qui,
toi, je vais te dénoncer à Marine.
Qui nous va droit au cœur. Marine, qui, je rappelle, fera peut-être de vous son ministre de la Culture. En tout cas, il en est question dans les cercles les plus proches du pouvoir.
Et je peux te dire. Ça va en chier chez les gauchistes de la culture à la con.
J'espère bien.
Les intermittents, vous allez voir votre intermittence dans votre cul, là. Vous allez aller bosser, quoi. Ah, voilà. Dans les mairies.
C'est bien.
Voilà, à ramasser les tracts de gauchistes que vous nous avez fait chier depuis 30 ans. Honte de pédé.
C'est marrant parce que j'avais remis un peu votre...
Rouge.
Ouais, c'est ça. J'avais remis
et toi, tu rigoles pas parce que j'ai ton nom en plus. Tu me l'as envoyé avec ton adresse, alors. Alors lui, il est con. Seulement, il se présente comme gauchiste et il me fait une commande.
Alors, on va revenir
à... Que lui, il est dénoncé, déjà.
On va revenir à la littérature, si vous le souhaitez bien, cher monsieur.
puisque... Pourquoi l'ai-je jamais quitté?
Non, c'est vrai. Elle est toujours là en vous. C'est ça qui est beau. Donc, avec ce nouvel... Mais... Mais ça
quelle
pas...
ambiance, mais ça quelle ambiance.
Ça n'avait pas vocation à être drôle, je suis désolé. Donc, vous sortez ce nouveau livre aux éditions Vaquette, en quelque sorte, du champagne, un cadavre et des putes. Un livre de votre aveu, de votre propre aveu, qui dépassera en pagination Les Misérables et Guerre et Paix.
Oui, c'est une réalité qui est déjà actée, ça c'est vrai.
C'est vrai. Donc un livre qui se présente sous la forme de plusieurs tomes. Le premier tome donc, vient de sortir, on le commande sur votre site. Peut-être que quelques libraires collaborateurs en disposent de quelques exemplaires, je ne sais pas.
Oui, la librairie Publico, la librairie anarchiste de Paris.
Oui, celle-là même voilà, qui... Bon. Voilà. Vous êtes vraiment...
Je suis vraiment irrécupérable.
C'est vraiment un pauvre gauchiste, hein, ça me déçoit.
J'arrive à être extraordinaire de vendre mon bouquin à la librairie anarchiste de Paris et d'être interdit sur Radio Libertaire.
Ouais, ça c'est fort. Ouais.
C'est, alors que c'est la même maison, c'est pas les mêmes personnes, c'est merveilleux la poésie.
Comme quoi l'anarchie c'est le règne de l'individu.
Ah, c'est
ça.
C'est, mais comme le disait l'autre jour un anarchiste belge, quelqu'un de bien, parce que je suis sérieux, c'est-à-dire les anarchistes en Suisse ou en Belgique, j'ai jamais eu aucun problème. C'est l'anarchiste en France, je sais pas, ils ont dû fumer du stalinisme à grosse dose. Et il me disait, ah ouais, non mais tu sais, c'est vrai aussi que les anarchistes d'Orga, ils sont cons. Et c'est vrai. Mais c'est vrai, d'être Orga, c'est un peu con.
Oui.
Ça rend con, n'est-ce pas?
Bah, je crois qu'on a... Bah, Kropotkin, Abdaloff est d'accord. On est bien d'accord. Bien, donc, Du champagne à cadavre et des putes vient de paraître, tome 1.
Oui, donc je précisais ça, je tenais à préciser. La publication en plusieurs tomes, elle est uniquement un fait pragmatique. Je peux pas, ne serait-ce que l'imprimeur voudrait pas ou pourrait pas, sortir un bouquin de 2500 pages. Et de toute façon, on m'a fait comprendre que si je sortais un bouquin de 2500 pages, ah mais c'est trop long, c'est pas pour moi, bon, j'en vendrais zéro.
De toute façon, ce livre est pas encore écrit.
Si, ce livre est écrit.
Ah bon, vous avez déjà tout écrit?
Non mais t'as rien compris à l'histoire.
Ah bah, pas du tout, non, moi je ne suis
voilà,
pas du tout.
Voilà, je peux te le sortir, il est dans ma liseuse là.
Mais qui êtes-vous? Pardon.
Non mais le livre, c'est pour ça que je
précise ça. Encore à écrire.
Donc la division en tomes, c'est très important, elle n'est pas du tout, j'écris une saga et je vais vous écrire plusieurs tomes, ça n'a jamais été l'histoire de ce roman. L'histoire de ce roman, c'est je vais écrire un roman. J'ai commencé réellement, pas pour de rire, à dire je vais écrire un bouquin en 2 mois pour rire un polar de 150 pages. Je me suis pris au jeu si on veut, le dragon de l'ambition, tout ça s'est raconté très longuement sur mon site pour ceux qui veulent comprendre les affres de comment un frappadingue écrit un bouquin de 2500 pages. C'est longuement sur la page Work in Progress du site vaquette.com. Bon. Et donc ce bouquin a eu une inflation de pages au fur et à mesure que je me disais j'ai plus de choses à dire, c'est exactement le tout début de Nymphomaniaque de Lars von Trier. Le type lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé, et elle lui répond, moi je veux bien vous raconter, mais si vous voulez vraiment comprendre, faut que je vous raconte tout, et ça va être très long.
Ouais.
C'est exactement l'histoire de ce roman, c'est-à-dire si tu dis, mon héroïne elle se prostitue, ah ouais c'est cool, non, si tu comprends pas ses traumatismes, c'est son histoire traumatique, son histoire sociale, là d'où elle vient socialement, ses galères de thunes, ses galères de trouver des boulots de merde aujourd'hui. Si tu comprends pas son cheminement de désir de devenir auteur, qui est exactement comme Jack London, va par à la conquête de l'or, il a jamais été chercher de l'or, Jack London. Il est parti chercher des romans, il est parti chercher de l'aventure.
Il en a trouvé, lui.
Et elle vit sa vie d'escorte pour nourrir son premier livre de jeune auteur qui est Super Alice contre les sales putes, qui est un pamphlet hardcore, qui est le bouquin lui-même intégré à mon bouquin. Donc si tu veux, quand je me suis retrouvé à un moment à dépasser les 2000 pages, tout le monde autour de moi m'a dit « ça va, il faut que tu penses en plusieurs tomes ». Et moi au début j'ai refusé en me disant « c'est pas une saga, je veux pas rentrer dans ce truc-là, j'écris Subutex 1, Subutex 2, je voulais pas ça ». Et puis après le pragmatisme l'a emporté. Mais c'est l'histoire de l'écriture d'un roman. Et je peux même te confier autre chose. Et après, je
parce qu'on est entre nous.
Voilà. Moi, au tout début de ce bouquin, le fil que j'ai tiré, c'est une citation qui, de Bernanos qui m'a hanté depuis toujours, qui dit, je ne sais plus exactement comment c'est écrit, mais l'idée veut dire quelle horreur d'avoir écrit la joie et l'imposture et la joie en deux livres séparés. Quel ouvrage extraordinaire ça aurait été si on m'avait donné le temps de réunir les deux en un seul ouvrage. Et ça, j'en avais conscience. Lui était tout le temps, comme plein d'entre nous, à courir après le fric. Donc son éditeur lui a dit « tu fais comme ça » et il a fait comme ça. Et je me suis dit « je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire d'un côté le roman qui raconte la vie d'une escorte et deux, l'essai qui parle de la prostitution. Ce n'est pas ça le fil. Tant pis, ça ne marchera pas, ce sera trop long, on va me cracher dessus, j'aurai pas de thunes, je m'en fous. Je vais tirer le fil de mélanger les deux et d'en faire un seul roman qui est pour partie essai sur la question politique et sociale de la prostitution et par-delà sur la marginalité et par-delà sur la liberté, la marginalité choisie, la marginalité subie. Et en même temps, cette histoire de jeune fille née au mauvais endroit, avec pas d'argent, avec des parents de merde, avec pas d'aide, pas de relation, etc. Et qui se retrouve confrontée à la France d'aujourd'hui, qui est d'une âpreté, d'une dureté totale pour tout le monde, et a fortiori pour les plus pauvres d'entre nous. Et c'est le mélange des deux qui prenait sens, et c'est ce fil-là que j'ai tiré. J'ai réussi mon coup, j'ai pas réussi mon coup, mais en tout cas, moi j'ai écrit un roman, j'ai pas écrit plusieurs tomes. Et ensuite, je l'ai découpé au petit bonheur la chance, pour des raisons, c'est l'éditeur que je suis également, comme tu l'as dit, qui l'a découpé, quoi. C'est pas moi, si demain je signe chez Grasset ou chez qui tu veux, et qui dit « ah non, mais il faut respecter l'intégrité du bouquin, on en sort un pavé de... » Ils vont pas faire ça chez Grasset. Mais admettons qu'ils disent... On sort un bouquin de 2500 pages. Non, ils vont dire, on va faire comme Despentes. Despentes a fait 3 tomes, on va faire 3 tomes. C'est ça qui se vend, Coco. Il y a saga de 3 tomes, t'es con.
Bon. Puis il y a une question de prix aussi, tout simplement.
Voilà, et après, il y a aussi une question absolument de prix. Donc, le découpage en tomes est un choix d'éditeur, qui évidemment j'assume puisque je suis aussi l'éditeur, mais ce n'est pas un choix d'auteur. Le choix d'auteur, c'est d'écrire un seul et unique roman. Qui est écrit, donc.
Alors, on retrouve aussi une certaine forme d'obsession sadienne. Je parle de la structure des romans ou des pièces de théâtre de Sade, où on a d'une part l'action pornographique, et d'autre part l'explication philosophique qui vient se confronter à la pratique. Il y avait déjà ça dans Je gagne toujours à la fin, de façon, à mon avis, plus nette. Je trouve que là, sur ce premier tome, vous êtes ça se fond plus.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
En fait, je vais t'expliquer.
Non, mais partez, ça commence à être pénible. Voilà.
Bon. Imagine, là c'est le 6e du bouquin que tu as lu. Imagine que tu aies lu le 6e de « Je gagne toujours à la fin » de ce roman, de mon premier roman.
Oui.
Tu serais arrivé que sur des scènes d'action avec des flingues, le héros de la résistance, il tue les nazis. Bon, t'aurais jamais pensé ce que tu penses de ce bouquin. Et cette partie que tu dis, mélange de scènes de philo et mélange de scènes d'action, elle n'existe pas dans les 60 premières pages, tu peux vérifier. Donc ce roman... Il a la même structure, c'est pas par choix, hein, c'est le fil qui m'a amené à ça, mais qui a amené les choses. Ce premier tome est effectivement extrêmement narratif, et par plein de côtés, il ressemble pas du tout à ce que va être le roman à la suite. La suite, il y a par exemple, là elle est dans l'extrême pauvreté tout ce tome, la suite c'est pété de thunes, quoi. Il y a des grands restos, des grands pinards, c'est trop la classe, son mec il fait la cuisine comme un dieu, ils partent en week-end tout le temps, ils vivent dans un château, c'est trop la classe. Donc, et dans la deuxième partie de l'ouvrage, donc les 1500 dernières pages, donc passer les 1000 premières pages, qui rien à l'échelle du roman.
Oui, bien sûr.
Là, tu commences à avoir Super Alice qui réfléchit, elle est escorte, et qui réfléchit sur la prostitution. Et qui fait, je vais vous expliquer quoi, quand, qu'est-ce la prostitution, et qui nous fait un pamphlet de 800 pages. Et d'une analyse de la prostitution, ce qui va jusqu'à analyser le calvinisme, la dictature de Calvin, qui va donner naissance en partant en Angleterre, puis en Écosse, puis avec le Mayflower, etc., tout ça, je vais vite, aux États-Unis, qui va fonder le puritanisme. Puritanisme qui fait une alliance... avec les féministes post-marxistes, alliance tout à fait étayée, toutes les féministes qu'on entend parler aujourd'hui qui se prétendent de gauche, c'est une immense escroquerie, elles ont été financées par le gouvernement de George Bush, des CO-cons, séocratiques and conservatives, l'extrême droite religieuse américaine, tout ça c'est totalement étayé, c'est les travaux de Ronald Weiser là-dessus. Elles ont fait la guerre aux individualistes libertaires, aux féministes libertaires, au moment des féministes sex wars des années 80, absolument, où elles défilaient contre les manifs des féministes individualistes libertaires en leur reprochant leur sexualité SM. Donc à un moment, il faut arrêter de... Bon, ça c'est... Donc elle fait cette analyse-là, notre Super Alice, au milieu de ces scènes où elle raconte ses passes avec ses clients en se foutant de la gueule des clients, puis après ils partent en week-end à Rome ou à machin, et puis ils goûtent tel pinard, elle te fait la dégustation du vin, elle te parle de tel musée, elle te parle de ses goûts en peinture, et tout ça tu la vois comment sa personnalité, son discours et elle-même se construisent et se fondent à travers ce premier travail littéraire. Donc en fait, c'est un roman sur la prostitution si on veut, c'est aussi le roman sur une jeune auteure qui se trouve elle à 20 ans et qui, en se trouvant, devient auteur, en devenant auteur, se trouve elle comme plein de gens. C'est, si on veut une boîte, c'est un roman initiatique. Et finalement, la question politique et sociale de la prostitution, je ne dis pas est un prétexte, mais pas plus importante que la ruée vers l'or dans le travail de Jack London.
Un décor.
C'est pas un décor, mais ça permet de... Si tu veux, moi j'ai compris très longtemps après le début du projet, après plusieurs années, pourquoi j'étais tombé dans ce thème en attaquant le chapitre 8 qui s'appelle Liberté. Parce que là, on est aux frontières de la marginalité choisie et subie, et je me suis rendu compte que dans mon personnage d'Alice, et dans éventuellement un personnage qui traîne par là dans ce chapitre, qui est une espèce de pauvre fou qui continue à dessiner des voitures rouges et racées alors que le marché demande des voitures familiales au teint de pastel, et tout le monde autour de lui fait « Mais le marché veut pas ça, tu pourrais mettre un peu d'eau dans ton vin, et puis va là-bas, t'auras un patron. » Il lui fait « Nique, je continue à faire je m'en fous, je vais arrêter, c'est tout pourri ma vie, mais je m'en fous, je dessinerai mes voitures comme je les sens au fond de moi. » Et que cette notion de marginalité choisie ou subie, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on subit? Est-ce que moi, pour revenir au début de cette conversation, je choisis mon échec social, je choisis de ne pas avoir le statut de Houellebecq? Chacun a compris ici, et dans cette interview j'étais clair, non, j'aurais voulu le statut de Houellebecq. Est-ce que j'ai choisi de ne pas baisser mon froc? Est-ce que j'ai choisi de jamais changer une ligne? Est-ce que j'ai choisi de ne pas faire des sourires à des gens que j'aimais pas? D'accepter les règles que tout le monde subisse des bureaux, mais que normalement, un artiste, dans l'imaginaire collectif, il ne devrait pas subir. Un artiste, ça ne devrait pas être un chien salarié comme les autres. Ça devrait être un esprit libre. Ensuite, un artiste, il devrait aller chercher sa singularité. Or, il ne peut pas chercher sa singularité quand le marché te demande « Mais alors, nous avons le nouveau machin qui ressemble à machin, et machin, truc, ça, on va pouvoir le ranger dans une boîte. » Et aujourd'hui, vous écrivez des sagas en 3 tomes, assez bien, parce que c'est ça qui nous vient des États-Unis. Mais c'est horrible. Moi, j'ai cherché autre chose. Bon, et donc, j'ai beaucoup digressé, et donc j'ai compris pourquoi la prostitution, comme je la raconte, était au centre de mon projet, parce que c'est un objet qui est profondément subversif et qui parle, qui est profondément marginal. Il suffit de lire Griselidis Real pour s'en rendre compte. Quand tu vois que la Fédération anarchiste a publié un petit bréviaire à Bolo, à Gerbé, de propagande catho pour dire que la prostitution c'était mal, et dans le même temps tu lis Griselidis Real, où t'as pas une auteure plus anarchiste au monde qui est sublime, et tu compares les deux, tu fais « Mais il est où l'anarchiste ?» À un moment, je m'amuse à ça dans mon bouquin, je mets des extraits, je voulais choisir lequel est l'anarchiste, et tu fais « Ah oui, putain oh !» Voilà.
Vous faisiez ça dans votre longue carrière de chanteur, hein, une chanson d'extrême gauche ou une chanson d'extrême droite, et le public devait choisir.
Tu vois, comme quoi il y a une cohérence, une cohérence dans ma vie et dans mon travail qu'on ne peut pas me retirer. Une Absolument. Singularité et une cohérence, car comme tu l'as dit toi-même, je suis un génie, on ne le répétera jamais assez, je suis un génie, je suis un... Vous êtes merveilleux, et c'est vraiment enregistré en public. Incroyable.
Je vous rappelle que Vaquette a aussi fait chanter à son public « Je suis un gros con pour les garçons et je suis une grosse conne pour les filles ». Donc vous pourrez.
Et non, mieux que ça, mon préféré, le préféré, c'est « Je tue, je viole oui. » aux garçons qui chantaient « Je viole » et les filles qui répondaient « Je tue », qui oui. est une vraie chanson nazie d'un groupe d'extrême droite.
C'est très
extraordinaire. Et les gens chantaient vraiment « Je tue, je viole », ça passe le temps, « Je tue, je viole », et c'est marrant. Et les gens chantaient mais à gueuler dans le public. Ouais. C'est un enregistrement live que je conseille. C'est vraiment sublime.
Enregistrement live qui est trouvable sur votre site contre une somme modique, je crois.
Absolument, je crois. 10 euros pour un CD gravé.
Qu'est-ce que 10 euros
crevard. Le CD s'appelle Un siècle et demi de chansons françaises hardcore et c'est un de mes travaux préférés. Je suis fan.
Très bien. On va faire donc notre première pause musicale puisqu'on en parle avec de l'industriel allemand brutal et ensuite on se retrouve juste après pour. Je crois qu'on va continuer avec vous, Vaquette. Allez, ce sera après ceci.
Depuis que ma mémoire existe. Je vous ai entendu vanter toutes les solutions marxistes au nom des peuples à libérer. Mais quand le jour maudit arrive, que vos régimes sont au pouvoir, le pays part à la dérive et puis se lève.
Sale sang, sale sang, sale sang, sale sang.
Je savais que ça vous plairait. De retour dans la salle 101, salle 100, l'émission science-fictionnesque de Fréquence Paris Pluriel 106.3, présentée comme tous les jeudis de 18h à 19h par la famille Abdaloff au grand complet, enregistrée en public dans les conditions du direct. Ouais, devant un monde fou tous les mardis de 21h04 à 21h06, même à 22h06, au Bar Amine, 64 rue de Charenton, dans le 2e arrondissement de Paris, devant un public un petit peu plus clairsemé, mais c'est parce qu'il a été horrifié par les propos outranciers d'un certain Tristan et d'Ernvaquette.
On a perdu surtout toutes les filles.
Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est un grand mystère, mais peut-être qu'elles reviendront attirées par votre sensualité moite, qui sait. En attendant, Tristan Ernvaquette, puisque vous êtes là, on rappelle à ceux qui nous rejoignent en cours de route que vous avez commis très récemment Du Champagne, Un Cadavre et des Putes, tome 1, votre grand œuvre, hein, plus de 2500 pages de littérature destinée à révolutionner, évidemment, la littérature même. Le premier tome est paru. Pour se le procurer, il faut se rendre sur votre site vaquette.com. Et contre une modique somme toute faible par rapport à la masse de connaissances que vous allez acquérir en échange, vaut le coup d'être dépensé. Vaquette, pour commencer, ce livre s'ouvre sur un meurtre. On a plutôt affaire à un polar, un code assez classique, avec un inspecteur fatigué qui a beaucoup de problèmes sexuels notamment, mais pas que, et qui est dans une phase de sa carrière un petit peu molle, pourrait-on dire, et qui va se retrouver à enquêter sur le meurtre de ce qui s'apparente très vite à un crime de prostituée, une escorte assassinée, retrouvée dans son appartement, le crâne fendu par un objet contondant. On ne sait pas exactement quoi. On va suivre le processus classique de l'enquête, et puis l'inspecteur va s'intéresser à la psychologie de la victime et donc va enquêter, faire son boulot et rencontrer peu à peu les gens qui l'ont côtoyé et mettre à jour, notamment par l'intermédiaire d'un blog bien pratique, le passé de cette fameuse Alice, car c'est d'elle qu'il s'agit. Le polar a le mérite de faire rentrer le lecteur directement dans l'histoire, de façon, on ne va pas dire facile parce que c'est pas exactement le terme, mais en tout cas de façon un peu simplifiée par rapport à la suite. Sachant que, à mon sens, le vrai climax de ce premier tome, si vous me passez l'expression climax, reste les pages et les pages entières où Alice décrit ses premières passes, mais pas que. Également le viol qu'elle a subi en guise de dépucelage dans son bled perdu. Et d'une façon générale, les abus de toutes sortes dont elle a été victime, notamment les abus sociaux. Des patrons, tous plus minables et lâches les uns que les autres, des petits copains veulent, et tout un pandémonium d'humains extrêmement minables. On sent une vraie misanthropie dans ce roman. Mais pas que.
Alors déjà, je précise une chose, c'est un roman qui est délibérément polymorphe. C'est-à-dire, je tiens surtout à rassurer les gens, c'est pas 2500 pages où ça va être tout le temps la même chose. S'il y a 2500 pages, c'est parce qu'il y a 150 pages de polar au début, et puis après on rentre, quand tu dis que tout ça c'est sordide, c'est à juste titre, dans quelque chose qu'on pourrait appeler un feuilleton noir. Mais le tome 2, le feuilleton social, le tome 2 tout de suite part dans un roman d'amour, genre un mélange entre, je sais pas, Harlequin et Sade, je sais pas, ouais, c'est peut-être mal choisi, mais... ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté vraiment tout mignon, tout gentil, ils se font des câlins, puis après ils déchirent le cul façon hardcore, mm-hmm. Et puis ils visitent des musées, et puis ils goûtent des vins, etc. Et puis la troisième... Ah, mais moi, sincèrement, à l'époque, j'ai relu mes notes à l'époque où j'avais écrit ça, je disais que j'étais très fier d'avoir montré... J'ai pas le souvenir qu'un roman ait montré l'amour sur toutes ses facettes. C'est-à-dire qu'il y a des romans qui ont montré, on parlait tout à l'heure de Jack London, son fameux grand roman Martin Eden, mm-hmm. Montre ce côté Pygmalion. Il y a des bouquins qui montrent une sexualité accomplie, il y a des bouquins qui montrent le côté câlin, il y a sans doute des bouquins... Bon, là, il y a tout, c'est-à-dire il y a la bouffe, il y a le pinard, il y a les week-ends, il y a la façon dont elle grandit avec lui, la façon dont il s'aime tendrement, la façon dont il baise hardcore, la façon dont il rigole, la façon... Il y a une scène que j'adore, c'est la fameuse scène du train, où ils font semblant de l'emmener au train, quoi. Puis à chaque fois qu'il demande de prendre le train, elle ne remonte jamais dans le train. Donc c'est pas grave, ils vont prendre la station d'après en moto à toute vitesse, puis etc. etc. Et c'est tellement.
C'est
My Wen. Oui, mais c'est My Wen. J'avais entendu dire ça en interview, ça m'avait vachement parlé. Elle me disait, je m'étais beaucoup posé la question de savoir comment montrer l'amour. Parce que c'est un truc tout mignon, et comment est-ce qu'on montre ça sans être ridicule? Et elle avait dit, il y a une façon de le montrer, c'est les jeux. Et elle avait illustré ça dans une scène d'un de ses films, où Joey Starr la balance au milieu du bois de Boulogne à 3h du matin, et il se casse, il fait dégage, chalope. Et il revient 30 secondes après, il fait c'est pour rire. Alors ils se retrouvent, ils sont tout contents, ils se font un câlin. Tu sais, j'ai tellement eu peur, je croyais que c'était sérieux, je comprenais pas. Bon, ben c'est ça, ce côté quand on est très con, quand on est amoureux. Bon. Et donc, ben, c'est vrai. Et donc, tout ce côté, cette plénitude. Et puis, la deuxième partie du bouquin, comme je disais, est un essai ou un pamphlet, comme on veut, ou un travail universitaire, ou ce que tu veux. C'est un objet bizarre. Donc, c'est un roman qui est résolument polymorphe. Donc, celui qui dit j'ai lu 100 pages et je sais ce que c'est, alors là, je peux t'assurer que celui qui dit ça, il a rien compris. C'est plein de choses. Donc, ce que tu as décrit, c'est effectivement le pitch du premier tome, qui est juste. Le premier tome, je joue avec les codes du polar. On est à fond dans le polar. Et je veux juste ajouter un truc rapidement, que ça avait un sens profond pour moi de commencer par un polar. Et là encore, je vais faire du name dropping, ça va faire trop classe. C'est David Lynch, en fait, qui m'a donné la clé. Je me suis arraché les cheveux pendant des mois et des mois et des mois et des mois pour trouver le fil que je cherchais. Et puis à un moment, j'ai vu que David Lynch, il avait fait la série. Et quand elle est morte, Laura Palmer. Et quand on arrive à la fin de la série, il a eu le besoin de faire le film. Pourquoi ? Pour montrer Laura Palmer vivante. Et d'un coup, on n'a pas du tout la même vision de Laura Palmer, parce que pendant toute la série, on a juste une photo d'elle angélique, alors que dans le film, quand on la voit le nez ravagé par la coke, en train de sauter tout ce qui se passe, c'est une autre image qu'on a. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous la montre, c'est-à-dire nous l'a montré morte et nous l'a montré vivante, et on a les deux regards. Et moi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, mais je ne vais pas faire deux objets, je vais faire le même dans le même. Et donc, il y a le polar où elle est morte, et à côté son journal intime dans lequel finalement elle est vivante puisqu'elle l'écrit. Donc ce qui permet de la faire revivre en temps réel. Et je voulais à la fois les avantages du polar, le fait qu'elle soit morte, donc on sait que ça va mal finir, tous les avantages du polar, comme tu disais, on rentre de plein pied dans l'histoire, ça a plein d'avantages et ça permet de voir les personnages autour dans des situations, et on ne sait jamais si ce que racontent les autres est vrai ou pas, c'est le principe du polar, puisque chacun témoigne. Donc chacun, peut-être que l'assassin, il est parmi ces gens, il raconte des belles choses, on fait assez merveilleux, et en fait, c'est juste le pire des salauds qui est un assassin. Donc on n'est pas obligé de croire les gens. Et en même temps, on la voit, elle, vivante à travers son journal. Et c'est cette forme-là qui m'a intéressé. J'ai mis très longtemps à trouver le truc formel qui me permettait de la voir à la fois vivante et à la fois morte.
Mais alors justement, point. Sur la forme, est-ce que la structure du polar qui vise et qui intéresse aussi le lecteur sur la fameuse question « Qui a tué Alice ?» parce que c'est aussi cette question qu'on se pose en tant que lecteur, est-ce que cette question tient jusqu'au bout ?
Absolument, c'est-à-dire le bouquin est fondé en trois parties. Il y a la partie deuxième partie qui est la partie principale qui fait 90% du bouquin. Il y a la première partie qui est le début du polar et la troisième partie, pareil, qui fera 100 pages, qui est la fin du polar, la résolution. Maintenant, on va vous dire qui est l'assassin. En même temps, le lecteur, entre-temps, il aura eu 2000 pages de sa vie. Donc, s'il n'a pas un peu quelques idées sur psychologiquement, ça pourrait être qui l'assassin, il faut qu'il recommence les 2000 pages et ça va le faire chier.
Bon, ouais, moi j'ai lu tout Finnegan's Wake, c'est pareil, hein, j'ai rien compris à la fin non plus. Donc ce sera très clair,
il y aura clairement l'assassin. Pourquoi il y aura pas de ruse? Si tu veux, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis pas mangé des polars. Les polars où le mec il arrive à la fin, il fait en fait l'assassin, vous en aviez jamais entendu pas depuis le début, c'était un psychopathe qui passait par là. Ouf, allez. Bon, ça m'a insupporté. Donc non, c'est l'assassin, on sait qui c'est. Enfin, on sait, c'est dans les personnages présentés comme suspects et tout se tiendra. Il y aura une vraie résolution et je tiens absolument à faire le polar. Et j'ajoute un autre truc rapidement puisque je suis très bavard, c'est que moi mon projet précédent était un album de hip-hop. C'est très amusant sur mon fonctionnement peut-être psychiatrique d'aller chercher à chaque fois des formes très populaires où je suis sincère, je me dis je vais faire un album de hip-hop parce que ça va plaire à du monde et c'est cool, je vais faire un polar parce que les gens lisent du polar, et à la fin d'en arriver avec des projets qui sont tellement complexes et tellement élitisé entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, est tellement complexe que finalement ça va pas toucher le public de polar basique, et mon album de hip-hop il a plu à personne qui écoutait du rap avec une casquette nique la police, tu vois, il a plu des gens qui écoutent de la musique contemporaine.
Donc c'est
un échec, mais c'est amusant. Moi je tenais, quand j'ai attaqué ce truc là je tenais à jouer le jeu du polar et dire je vais faire un truc accessible, sympa, que les gens lisent en une heure et qui gaulerie, ouais trop cool, trop cool. Et puis le démon de l'ambition m'a pris dans ses ailes et m'a emmené vers des paginations himalayennes.
Voilà, c'était beau d'ailleurs.
Et je me suis écrasé au sol comme une merde, comme d'habitude.
Non, le livre est sorti, effectivement, toute la presse en a parlé, hein, je crois que vous avez eu comme un thé dans Télérama, non, c'est pas vrai. Non, Télérama vous méprise, rappelez-vous.
J'espère.
C'est normal, c'est comme un petit peu la
base. Il reste quand même quelques des réussites dans ma vie, pas beaucoup, mais alors, je me les retire pas.
Pour conclure, on rappelle quand même que ce livre ne s'adresse pas à n'importe qui, il faut effectivement avoir un peu d'argent pour se l'acheter, hein, parce que évidemment vous ne le donnez pas.
Et c'est un autre truc, si tu veux, il joue l'héroïne et le héros, donc il joue à plein de choses, et il joue entre autres à s'amuser, parce que lui vient d'une famille de musiciens, tout ça, à faire les parallèles qui pourraient exister entre la prostitution et le métier de ses parents. Et parmi les nombreux parallèles, par-delà les lieux communs que chacun peut trouver vite, il y en a des en creusant plus qui sont super intéressants. Le pseudonyme, par exemple, plein de choses. Bon, c'est très long, je ne développe pas tout ici. Mais il y a une qui est intéressante, c'est le sens du désir. Dans la prostitution, c'est le sens du désir qui détermine la relation de pouvoir. Si t'as le mec en chien qui fait « Oh, je rêverais d'avoir la plus belle... » C'est les romans du 19e siècle. « Je rêverais d'avoir la plus belle courtisane de tout Paris. Ben, bien, tu vas me payer l'hôtel particulier et je vais te ruiner, espèce de connard. » Si toi, t'arrives et que tu fais « J'ai besoin de manger, monsieur, s'il vous plaît. » Là, tu te fais traiter comme la pire des merdes. Donc, t'es pas toxico ou t'as de la cam suffisamment à la maison, t'es pas déchiré et t'attends pas le dernier jour pour faire ta passe. Ça, c'est les bons conseils qu'on peut donner à une pute. Il faut que le sens du désir soit toi qui le détermine. Dans nos métiers, c'est la même chose, donc je n'offre pas mon bouquin pour ça, parce que le jour où tu commences, s'il te plaît, non, j'écris un truc, je te jure, c'est cool, vas-y, s'il te plaît, je te l'offre, vas-y, et t'en as pensé quoi, tu veux pas m'en céder, tout ça, c'est pathétique, c'est lamentable. Si l'autre, il a pas envie, bah, tu vis avec, t'as pas envie de mon travail, mon ego est blessé ou pas, mais je vais vivre avec. Parce que le sens du désir détermine la relation saine que tu vas entretenir avec l'autre.
C'est beau, merci Vaquette.
Ah, je sais.
Mais ouais, vraiment, du champagne, un cadavre et des putes chez vaquette.com à commander et public. Si tu as envie, tu peux même l'acheter ici. Tu peux applaudir Vaquette, on va faire une deuxième pause musicale. Il reviendra bien sûr prochainement. Bravo.